celle du professeur Jean-Pierre Bardet, directeur général des enseignements supérieurs, qui serait là à un autre titre, celui de directeur à l'heure actuelle du centre Roland Mounier, puisque tel est le nom qui a été donné au centre qui a été fondé par Roland Mounier, n'est-ce pas, le centre de recherche sur l'Europe moderne, puis après l'autre centre sur l'Occident moderne. Ça fait à peu près un an que Roland Mounier est décédé. Et on pourrait parler de lui avec, je dirais, beaucoup de raisons, soit comme créateur précisément des centres de recherche historique à partir des années 58. On pourrait parler de lui comme administrateur, comme enseignant, et enseignant particulièrement dans le domaine des préparations à l'agrégation, où des cours qui ont été édités ont montré la qualité de cet enseignement. Et l'un d'entre nous rappellera précisément ce qu'il a donné concernant la présence des Européens hors d'Europe. Faut-il rappeler sa thèse sur la vénalité des offices à l'époque d'Henri IV et de Louis XIII, ses enquêtes sur les révoltes populaires, sur les structures sociales, sur les corps et compagnies, les maîtres des requêtes en particulier, ou le Conseil du roi. Il faudrait aussi rappeler qu'en dehors de cette carrière de chercheur et d'universitaire, il a eu des engagements civiques. Je ne dirais pas politique, mais je dirais civique, d'abord contre l'occupant allemand, et puis ensuite contre un autre occupant qui n'était pas physiquement représenté sur le territoire national, mais qui était le marxisme et son incarnation communiste en France et dans le monde. Il a très vite vu l'importance du totalitarisme rouge après le brun, et beaucoup de chercheurs à cette époque-là, d'universitaires, nous étions nous-mêmes en préparation de thèse dans les années 60, 50-60, sacrifiaient à cette nouvelle divinité. Ça subsiste, mais naturellement à des doses tout à fait différentes aujourd'hui, après que le grand rideau se soit déchiré sur les réalités de l'incarnation marxiste, mais que lui-même pressentait non seulement par la lecture des auteurs soviétiques et de leurs émules, mais pressentait par ses voyages. Combien de fois il m'a parlé de ses voyages à une époque, n'est-ce pas, stalinienne, puis brejnevienne dans ces territoires de l'Est. Faut bien dire qu'il était seul, la voix criant dans le désert universitaire de ces époques-là, avec quelques autres, mais peu nombreux, et alors qu'il y avait une multitude de thuriféraires de ces régimes, et qu'on présentait volontiers les Khmer Rouges comme des humanistes allant amener un nouveau régime dans le monde, avec une première installation au Cambodge. Il n'y a pas cru, je dirais d'une façon viscérale, il n'a pas cru à cette incarnation, il l'a dénoncé. Et à cette époque, beaucoup de nos collègues qui sont maintenant décédés ou qui sont en retraite présentaient volontiers, j'allais moi-même suivre ces cours, des plans ternaires. Il y avait d'abord un premier développement, c'était les beautés miraculeuses de l'Union soviétique. Il y avait toujours un deuxième temps, c'était la transformation latente des pays du tiers-monde qui, naturellement, par l'imitation du modèle premier, devait accéder au nirvana soviétique. Et puis, il y avait enfin troisième thème, l'horreur épouvantable des pays capitalistes libéraux. Roland Mounier ne croyait pas à ça, du tout. Enfin, il ne croyait pas, il croyait bien au plan ternaire qu'il enseignait dans ses cours de préparation à l'agrégation, mais il ne croyait pas qu'il fallait les meubler par un manichéisme aussi primaire et aussi sordide. Et il a finalement mené, et c'est probablement ce qui a marqué la plupart d'entre nous, en tout cas moi le premier, il a mené le bon combat pour les libertés, et il a démonté toujours, comme à plaisir, le manichéisme, le réductionnisme qui était opéré à cette époque-là, en acquérant, je crois d'ailleurs, de l'estime de la part de ceux qui régnaient du côté de l'Est. Et je pense pourquoi pas invoquer la mémoire de Boris Korchnev, qui était son alter ego de l'autre côté, n'est-ce pas, du rideau de fer, et qui d'ailleurs en a souffert, puisqu'il est passé lui-même par la prison soviétique comme une sorte d'obligatoire purgatoire à cette époque. Est-ce que ça subsiste aujourd'hui ? Ben, je crois quand même qu'il a été de ceux qui ont ébranlé les colonnes du temple, n'est-ce pas, concernant ce nouveau totalitarisme. Mais j'ouvrais il y a très peu de temps un numéro des annales OSC, où je voyais dans des recensions, des gens que je ne nommerai pas, mais qui parlaient de Roland Mounier et de ses sectateurs. Ce qui prouve bien quand même, et ça nous fait d'ailleurs un certain plaisir, de voir qu'il y a un temps de latence avant que ne soient éradiquées définitivement ces erreurs pernicieuses, parce que ça montre bien qu'il y a une structure mentale qui évolue quand même beaucoup plus lentement que les structures politiques. Et c'est à la fois dangereux et c'est à la fois réconfortant. D'autre part, Roland Mounier, pour lutter contre tout cela et pour faire progresser surtout la méthodologie historique, a intégré les sciences sociales sans devenir, je crois que c'est ça qui est important pour nous, sans devenir l'esclave des dites sciences sociales. Il a pu y succomber à certains moments, bien évidemment, comme chacun d'entre nous. Mais dans ses voyages aux États-Unis, il a rapporté de là-bas probablement ce qu'il y avait de meilleur dans les méthodes d'analyse américaines, dans l'anthropologie, la sociologie, etc., en l'appliquant aux sciences sociales. Et la liberté, finalement, derrière quand même une façade qui était, pardonnez-moi, parfois rugueuse, n'est-ce pas, et la participation à ces séminaires de recherche tenait plus parfois de la salle de combat rapproché que de la tranquillité pacifique de ces fresques que nous avons dans notre dos ou dans les couloirs de cette maison comme dans celle de la Sorbonne et qui expriment les verts pâturages d'un paradis des Lumières. Ici, c'était très agonistique, comme auraient dit les anciens, que ces séances, n'est-ce pas ? Mais je crois que la diversité que nous présentons ici même dans nos recherches, suivant les thèses que nous avons menées les uns et les autres, ou les recherches sous sa direction, montre bien qu'il était très ouvert à des directions de recherche très différentes. Et je crois que c'est là un point, au contraire, qui vient contrebalancer cette sévérité qu'il mettait dans la direction des travaux. Je n'ai pas partagé tous ses idéaux sur le plan étatiste, réglementariste, centralisateur, au total jacobin. Mais jacobin, naturellement, s'est allé pousser trop loin le bouchon, puisque c'était plutôt un admirateur de Richelieu, et du grand siècle, qu'il était centralisateur plus que dans l'esprit de 92-93, ça va sans dire, et si je me placerais plutôt du côté de Marillac et de Bérulle que du côté de Richelieu en vous livrant le fond de mon âme, ça n'est pas pour ça que je n'admire pas les travaux qu'il a consacrés au cardinal. En réalité, je crois que Roland Mounier a toute sa vie été guidé par le christianisme, le catholicisme, le thomisme et ce qu'on pourrait appeler aussi le réalisme, mais le réalisme et le thomisme vont tout à fait de pair. Alors ça me sert, sans l'avoir cherché d'introduction, cette dernière réflexion, à l'exposé que va nous faire le père Pierre Blais de la Compagnie de Jésus, qui est l'un des de Roland Mounier, ou disons qui a fait ses études sous la direction et soutenu sa thèse sous la direction de Roland Mounier, le présenter quelque chose de tout à fait facile, puisque vous le connaissez tous. Blais s'est consacré à l'étude des assemblées du clergé, cette grande institution qui a donné certainement modèle de beaucoup de choses. Il consacrait ses travaux au rapport entre la France et le Saint-Siège à l'époque de Louis XIV, et plus largement à la structure diplomatique et de représentation du Saint-Siège à travers les siècles, sur laquelle il a donné un grand livre. Et pour ne pas vous faire attendre, je lui donne immédiatement la parole, sur le thème de l'histoire religieuse dans l'œuvre de Roland Mounier. Mon père, vous avez la parole et je vous passe en même temps.
Monsieur le recteur, chers amis, d'abord je remercie monsieur le recteur de l'Institut Saint-Pédis de m'avoir invité à cette séance. Je remercie monsieur le recteur Durand de me donner la parole pour pouvoir rendre un hommage, et je le fais du fond du cœur, à Roland Mounier. Et je vais donc traiter l'histoire religieuse dans son œuvre. À première vue, on peut s'étonner du sujet. Il n'y a pas d'histoire de l'Église, il n'y a pas d'œuvre dont le titre dise immédiatement qu'il s'agit d'histoire religieuse dans les œuvres de Roland Mounier. Cependant, en cherchant un peu, on trouve assez rapidement quatre titres. Évidemment, le dernier paru, L'homme rouge ou la vie du cardinal de Richelieu, fait tout de même attendre quelques références à l'histoire religieuse. La vie d'un cardinal, même si nos habitudes mentales en France nous renvoient plutôt à l'histoire politique qu'à l'histoire religieuse, quand on parle de Richelieu, tout de même, il serait bien étonnant qu'il n'y ait pas une part d'histoire religieuse dans cette vie. Ces institutions de la France sous la monarchie absolue appelaient également un traitement des institutions ecclésiastiques. L'Église était trop intimement liée à l'État, disons, pour qu'il ne faille pas, à côté des institutions purement civiles, temporelles, parler aussi des institutions ecclésiastiques. Il y a aussi, bien entendu, dans Paris capitale, au temps de Richelieu et de Mazarin, quelques chapitres sur, pages au moins, sur la vie religieuse dans la capitale. Celui pourtant qui est le plus consacré, je dirais, à l'histoire religieuse porte un titre sous lequel on n'attendrait pas. C'est l'assassinat d'Henri IV. C'est par cet ouvrage que nous commencerons, parce que d'abord, je vais suivre un ordre, non pas des œuvres de M. Mounier, bien que dans ce cas-là ça coïncide, mais plutôt l'ordre chronologique des événements, des idées auxquelles je vais faire allusion. Eh bien, je vais commencer par cet ouvrage de l'assassinat d'Henri IV, qui n'est pas un roman policier qui a tué Henri IV, mais c'est un cas de théologie morale, de philosophie politique aussi, sur la licéité du régicide, du tyrannicide plus exactement. Dans quel cas y a-t-il des exceptions au commandement « tu ne tueras pas » qui permettent à des individus de tuer le tyran, de tuer le prince considéré comme tyran. Parce que Ravaillac, dont le nom est passé malheureusement à la postérité, n'est pas un tueur à gage, à la solde de l'Espagne ou de quelque autre, comme il en a d'abord été immédiatement soupçonné. Interrogé le jour même du drame, les jours suivants, s'il n'est pas allé à Bruxelles, il aurait pu se mettre en relation, n'est-ce pas, avec des agents de l'Espagne, il a dit qu'il n'est jamais sorti du royaume et ne sait où est Bruxelles. Les juges, qui étaient, M. Mounier souligne, des gens de noble condition, avaient du mal à penser qu'un individu de si pauvre état ait pu concevoir le projet d'attenter au souverain. Mais il affirme bien, et il n'y a pas de raison, enfin, tout le monde, d'ailleurs, n'a trouvé aucune piste, n'est-ce pas, qui n'est pas télécommandé. C'est lui-même, qui a conçu le projet. Pourtant, alors c'est là que la chose devient intéressante, c'est un catholique fervent, qui connaît sa religion. Il a appris le commandement, le cinquième commandement, tu ne tueras pas. Il a nourri des projets de vie religieuse, il est entré chez les Feuillants, moines de la famille cistercienne. Il en a même revêtu l'habit, ce qui l'a plus tard empêché d'être accepté chez les jésuites. Mais, donc ça montre, pour M. Mounier le souligne, Ravaillac est un très bon chrétien, d'une piété fervente. Après l'assassinat, l'obsession tombée, il se montre un excellent catholique d'une foi parfaite. Il se repent de son acte, qu'il voit maintenant dans sa vraie nature. Il ne peut ignorer la gravité du commandement « Tu ne tueras point ». Interrogé s'il n'a pas horreur de son acte, s'il ne croit pas damné après un coup si abominable, il reconnaît qu'il a été si imbécile et tellement aveuglé du péché que le diable l'a fait tomber dans cette tentation. Il dit qu'il a la crainte, mais aussi l'espérance en la grâce de Dieu, qu'il espérait que Dieu tout bénin et miséricordieux lui ferait pardon et rémission de ses péchés, étant plus puissant pour dissoudre le péché, moyennant la confession et absolution sacerdotale que les hommes pour l'offenser, priant la Sacrée Vierge, M. Saint-Pierre, M. Saint-Paul, M. Saint-François, etc. Et grâce à la faculté infuse en la puissance apostolique, lorsqu'il a dit « Tu es Pétruson », voilà. Excusez-moi la longue citation, mais ça explique ce que dit M. Mounier. Oui, Ravaillac est un homme de foi profonde, de piété fervente, très instruit de sa religion, un excellent catholique. Mais malheureusement, c'est un visionnaire. C'était confessé à un jésuite qui lui avait ouvert certaines de ses idées. Il lui a répondu que c'était imagination plus que vision, devait manger de bon potage, retourner en son pays, dire son chapelet et prier Dieu. Parce qu'il s'est cru, donc, chargé d'une... Ravaillac s'est cru chargé d'une mission auprès du roi. Il n'a pas pu le joindre, il a été pris par l'idée qu'il devait le tuer. Alors, interrogé sur les motifs de son geste, par les juges qui cherchent à trouver des complices, il a donné plusieurs explications, entre autres parce que le roi n'avait voulu, comme il en avait le pouvoir, réduire les protestants à l'Église catholique, apostolique et romaine. Il avoue qu'il est revenu des temples, décidé à tuer le roi, parce qu'il ne convertissait pas ceux de la religion prétendue réformée, et qu'il avait entendu plusieurs fois et de plusieurs façons que le roi voulait faire la guerre au pape, transférer le Saint-Siège à Paris, et que, faisant la guerre contre le pape, c'est l'affaire contre Dieu. Évidemment, on pourrait se demander d'où venaient ces rumeurs, mais ça n'explique pas comment Ravaillac a pu croire qu'il était permis de tuer le roi. Cela suppose un raisonnement que M. Mounier met en syllogisme. Dans certaines circonstances, il est permis de tuer un roi. Or, Henri IV se trouve dans ces circonstances, donc il est permis de le tuer. Alors, la majeure nous entraîne tout le long développement, je dirais, de théologie, de philosophie politique. C'est d'ailleurs comme ça qu'a compris aussi le Parlement de Paris, que le jour même où il condamnait Ravaillac, a convoqué le 27 mai 1610, a convoqué le syndic de la Sorbonne pour lui enjoindre de renouveler le décret de la faculté de théologie du 4 septembre 1413, qui condamnait le régicide. Et ainsi fut fait, le 4 juin, la faculté de théologie condamnait la proposition suivante: tout tyran peut et doit licitement et méritoirement être oxy, par qui quelconque, sien vassal ou sujet, et de par quelque manière que ce soit. La proposition est condamnée comme erreur en notre foi et en la doctrine des mœurs. Et c'est hérétique qui la soutenait. Le 8 juin, des envoyés de la Sorbonne vinrent présenter le décret au Parlement, qui l'enregistra, et le livre de Mariana, du jésuite Mariana, des régis institutionnés, fut condamné à être brûlé devant l'église des jésuites de Paris. Selon le Parlement, par conséquent, les responsables de la mort d'Henri IV, c'étaient les théologiens qui soutenaient la majeure du syllogisme: il est permis de tuer les tyrans. C'est donc par l'examen de ces auteurs qu'il faut commencer l'enquête sur l'assassinat d'Henri IV. Alors, pour ne pas remonter encore au-delà, Aristote permet le tyrannicide. Il définit la tyrannie comme étant le pire des gouvernements, parce que c'est justement la corruption du meilleur qui est la monarchie. Le roi est le protecteur de ses sujets, le tyran ne cherche que l'avilissement de ses sujets pour maintenir son pouvoir. Et la fin normale du tyran, c'est d'être tué par des conspirateurs. De même, Cicéron, bon, passer rapidement sur l'Antiquité, dans son De Officiis, constate que le tyran finit toujours de mort violente. Les premiers pères de l'Église, à l'inverse, considèrent que le seul remède à la tyrannie, c'est de prier pour la conversion du tyran. Priez pour les rois et pour les princes, afin que tout soit paix pour vous, dit Tertullien. Saint Augustin, en principe, suit la même doctrine, mais avec une double restriction. Premièrement, les méchants peuvent être licitement tués par ceux qui sont revêtus de la puissance publique. Par conséquent, les magistrats et députés du peuple peuvent condamner et faire périr le tyran. De plus, un particulier peut tuer le tyran après en avoir reçu l'ordre directement de Dieu, comme on en trouve des exemples dans l'Ancien Testament. Alors saint Augustin a été repris sous diverses formes par les théologiens du Moyen Âge. Un des plus décisifs sur la question, c'est Jean de Salisbury, qui fut évêque de Chartres, qui mourut évêque de Chartres en 1180, considère, alors il distingue, c'est important tout de même, deux sortes de tyrannies. D'abord le tyran d'usurpation, l'usurpateur, qui s'est emparé du pouvoir par force et par ruse. Alors, pour lui, il n'y a pas de difficulté. Tyrannum occidere non modo licitum, sedesiam ecum et justum. Ça, l'usurpateur, on peut le tuer, c'est une chose juste et équitable. Tyran d'usurpation. Seulement du tyran d'usurpation, Jean de Salisbury passe au tyran d'exercice, celui qui use de façon tyrannique d'un pouvoir légitime. Et dans la ligne d'Aristote, il oppose le roi, qui gouverne selon les rois, au tyran qui opprime le peuple. Il oppose le meilleur au pire. Le prince, c'est une image de la divinité. Le tyran, c'est une image de la perversité luciférienne. Si bien que le tyran, quel qu'il soit, usurpateur ou tyran d'exercice, peut être tué sans violer le commandement de Dieu. Le prince de la scolastique, dit M. Mounier, Thomas d'Aquin, a repris la question en plusieurs de ses traités. Mais tout se passe, écrit M. Mounier, comme si le docteur Angélique avait eu des hésitations sur le tyrannicide. Pour le tyran d'usurpation, là, il n'y a pas de difficulté, on a le droit de le tuer. Mais le tyran d'exercice, ah, on n'est pas tenu de lui obéir quand il commande le péché, bien entendu. Et alors là, saint Thomas cite les martyrs des premiers siècles qui ont résisté aux princes légitimes. On pourrait donc conclure que dans son livre sur les quatre livres de Pierre Lombard, saint Thomas n'admet pas la mise à mort du tyran d'exercice. Il est revenu sur la question dans le traité des Regimine Principum a Tregem Cypri, la distinction entre les deux formes de tyrannie disparaît. Et là encore, saint Thomas oppose la royauté, le meilleur des gouvernements, à la tyrannie qui en est le pire, et il se prononce pour la patience. L'Ancien Testament, il est vrai, offre des exemples de meurtres de tyrans, mais dans le Nouveau Testament, saint Pierre exhorte à la patience, même avec les maîtres difficiles. Pourtant, saint Thomas admettrait une révolte organisée par les représentants légitimes du peuple, comme par exemple le Sénat romain. Dans la Somme théologique, la question n'est pas explicitement abordée. Il est question de la mise à mort des malfaiteurs, mais alors, à la rigueur, il envisage cependant avec saint Augustin le cas d'un particulier investi par Dieu de la mission expédier le tyran. Alors, au contraire, au XVe siècle, le Concile de Constance, le 6 juillet 1415, avait fait sienne le décret de la Sorbonne qui condamnait la thèse de Jean Petit en faveur du tyrannicide. Au XVIe siècle, Luther condamne absolument le tyrannicide. Calvin reprend plus ou moins saint Thomas. Si nous sommes cruellement vexés par un prince inhumain, il ne reste autre chose que d'implorer l'aide de Dieu en les mains duquel sont les cœurs des rois et les mutations des royaumes. Mais il envisage tout de même la mission, une mission spéciale de Dieu confiée à un particulier pour délivrer son peuple du tyran. Les calvinistes sont allés plus loin. Ils ont repris la distinction entre l'usurpateur qu'un particulier peut tuer et le tyran d'exercice que les grands, peuvent au besoin déposer et mettre à mort. La plupart des théologiens de la fin du XVIe et donc du début du XVIIe, dominicains, jésuites entre autres, utilisent saint Thomas, mais dépassent ses positions pour Cachetan, Soto, Aragon, Grégoire de Valence, Tolé. Il est loisible à chacun de tuer l'usurpateur. Le tyran d'exercice, personne n'a le droit de porter la main sur lui s'il n'a aucun supérieur à qui recourir. Alors il faut la patience. Seulement, à la suite des meurtres du duc de Guise et du cardinal de Guise, après l'assassinat du roi par Jacques Clément, les prédicateurs de Paris, en particulier Jean Boucher, le curé de Saint-Benoît de Paris, dans son livre de la juste abdication, enfin élimination d'Henri III, et plus tard dans son apologie pour Jacques Clément, reprend d'abord la distinction entre usurpateur et tyran d'exercice, mais la distinction s'efface de plus en plus. À la fin, il conclut que lorsque la République, l'État, ne soit proclamé le tyran ennemi public, dépourvu de tout sens, un simple particulier, sans mandat, peut l'abattre comme une bête féroce. De même, si le tyran est hérétique, il ne peut être loin du Seigneur, et l'honneur de Dieu l'emporte sur le tu ne tueras pas. Pas besoin ni de magistrats, ni de procès dans ce cas-là. C'est plutôt des pamphlets ici. Seulement, les théologiens inclinés tout de même dans le même sens. Le jésuite portugais Emmanuel de Sá, en ses Aphorismes des confesseurs, publié avec le visa de la faculté de théologie de Paris, qui était entre les mains de beaucoup de confesseurs de Paris, concluait que le tyran d'exercice ne peut être dépouillé de son pouvoir que par un jugement public. Mais la sentence prononcée, chacun peut en être l'exécuteur. Son confrère Mariana, Juan Mariana, allait beaucoup plus loin. Dans son De Regis, De Rege et Regis Institutionnel, dédié à Philippe III d'Espagne, imprimé avec les imprimatures de l'ordre, il aborde au chapitre 6 la question « Est-il permis de tuer le tyran ?» Il commence par l'exemple de Jacques Clément. Considéré, dit Mariana, par le plus grand nombre comme une gloire éternelle de la France. Il était d'une intelligence moyenne et pas d'une grande robustesse de corps, mais sans doute d'une force supérieure augmenter la sienne et fortifier son âme. Beau début, commente M. Mounier. Mariana reprend cependant la distinction entre l'usurpateur et le prince légitime qui tourne mal. Pour l'usurpateur, il est licite à tout citoyen de lui enlever le pouvoir et la vie. Le roi légitime, devenu tyran, il doit être supporté aussi longtemps que possible, qu'on l'admoneste, qu'on le dépose s'il dépasse les bornes. Mais si le jugement est impossible, alors il ne faut pas, s'il n'y a pas moyen de réunir un tribunal, il est loisible à tout citoyen d'en débarrasser le peuple par l'assassinat. Donc Mariana allait tout de même plus loin que ce que M. Mounier appelle la vulgate des théologiens catholiques. Robert Bellarmin, un cardinal Bellarmin, jésuite, ne prônait pas le tyrannicide, mais il enseignait le pouvoir du pape à prononcer une sentence de déposition contre un prince qui, de façon ou d'une autre, met en danger le salut éternel de ses sujets. Alors le tyran, une fois déposé, peut être dépouillé de son pouvoir par la force, ce qui, à la longue, même rapidement, peut entraîner sa mise à mort. Et alors, monsieur Mounier conclut, à la veille de l'assassinat d'Henri IV, il circulait, sous la garantie des théologiens les plus sérieux, des idées très nocives. Le cinquième commandement de Dieu, tu ne tueras pas, comporte des exceptions. Un particulier peut tuer un prince sans jugement, si le prince est un tyran d'usurpation, et même, selon certains, un tyran d'exercice, si ses sujets n'ont pas la liberté de tenir d'assemblée pour le juger, s'il menace l'Église et le bien public. Or, ces théories ont été propagées par la prédication des ministres ou des curés, à une époque où la chair joue dans l'ordre politique le rôle de la télévision de nos jours, par des pamphlets nombreux qui mettent en menu monnaie les théories des gros infolios des théologiens, par les confesseurs dont le rôle discret est immense. Il faut songer que Ravaillac n'a pas été le seul. Il y a eu une vingtaine d'attentats préparés et quelques-uns perpétrés contre Henri IV. Alors, donc, ça voilà, démontré, n'est-ce pas, la majeure du syllogisme. Dans certains cas, il est légitime, il est permis de tuer le roi, de tuer un prince. Alors, l'application à Henri IV. Or, Henri IV est dans le cas. Henri IV est un tyran. Comment ? Bien, le plus grave, commence M. Mounier, c'est qu'Henri IV pouvait être considéré par certains comme un tyran d'usurpation, comme un usurpateur. La couronne passe de mal en mal par ordre de primogéniture. Ainsi en a-t-il été pour Louis XII, cousin de Charles VIII, pour François Ier.
On trouva Henri de Navarre qui était cousin au 22e degré. Eh ben, selon Boucher, genre avec une telle distance, il fallait une nouvelle élection. Il avait pris une épouse de la lignée de Charlemagne. Donc les Capétiens retrouvaient une légitimité, même comme descendant de Charlemagne, seulement par les femmes. Alors la loi salique ne jouait plus. Un avocat du Parlement de Paris avait rapporté de Rome en 1576 un mémoire relatif à un plan de transmission de la couronne. Pour lui, si le roi n'arrivait pas à vaincre les Valois, n'est-ce pas, à vaincre les protestants, c'est que, ou moi, éliminer le protestantisme de France, c'est que la race de Capet n'a pas succédé à la bénédiction apostolique conférée à la postérité de Charlemagne. Les états généraux devaient donc se réunir, jurer fidélité au pape, introduire en France les décrets du concile de Trente, obliger Henri III à établir le duc de Guise, lieutenant général du royaume, pour vaincre les hérétiques, et alors les états généraux pourraient renfermer Henri III et la reine dans des monastères, comme avait fait Pépin avec Childeric. Malgré le ralliement progressif des princes lorrains Henri IV, certains Français continuaient à douter de la légitimité d'Henri IV. Ils considéraient qu'Henri IV avait dépouillé de ses droits les héritiers légitimes de la couronne de France. Encore plus répandus, naturellement, les doutes sur la sincérité de la conversion du roi. Pas besoin d'entrer dans tous les détails, comme quoi Henri de Navarre, qui avait abjuré une première fois pour sauver sa vie au moment de la Saint-Barthélemy, une fois hors de Paris, était revenu au calvinisme et avait persécuté, avait très maltraité les catholiques. Il avait aussi massacré des prêtres, des religieux. Le 21 septembre 1585, Sixte Quint, dans une bulle solennelle signée de lui, exceptionnelle, avait déclaré Henri de Navarre et le prince de Condé hérétiques, relapses, privés de tout droit à leur domaine, au domaine qu'ils possédaient et à tout droit de succession au royaume, seigneurie, spécialement au royaume de France, d'où qui a facilité naturellement la résistance de la Ligue contre Henri IV. La Ligue aidée même militairement et par les anathèmes de Grégoire XIV et par les finances du roi d'Espagne. Alors finalement, donc, le 25 juillet 1593, à Saint-Denis, Henri IV s'était déclaré catholique, avait reçu l'absolution de l'archevêque de Bourges, qui en principe n'avait aucun pouvoir pour cela, puisque seul le pape pouvait absoudre d'une sentence lancée par le pape. Finalement, après des négociations, n'est-ce pas, les commissaires d'Henri IV ont reçu de l'abbé d'Ossa et Jacques Duperron, ont reçu le 17 septembre 1694 l'absolution du pape Clément VIII. L'année suivante, Henri IV a renouvelé son abjuration entre les mains du légat, le cardinal de Médicis. Il a signé les conditions posées à son absolution: rétablir la religion catholique partout en France, spécialement en Béarn, recevoir le concile de Trente, appliquer fidèlement le concordat en ne nommant aux évêchés que des candidats idoines. Or, le 13 avril 1598, Henri IV signait l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, perpétuel et irrévocable, bien sûr, comme tous les édits, prononcer d'abord l'amnistie pour les faits passés. restaurer la religion catholique, là où elle était abolie, accorder à ceux de la religion prétendue réformée. Puis alors ensuite, ça, d'une part, établissait partout le catholicisme, mais accorder alors aux protestants liberté générale de conscience et une liberté de culte, d'abord pour les seigneurs qui avaient droit de haute justice et dans un certain nombre de villes, n'est-ce pas, bien définies, je ne rentre pas dans tous les détails ici. Et, mais en plus, Henri IV autorisait une organisation religieuse avec des synodes et des levées de taxes, et enfin des articles secrets qui concédaient aux protestants plus de 80 villes de sûreté, dont les garnisons étaient payées aux frais du roi, et d'autres villes avec leurs milices propres. Alors, malgré les avantages concédés à la religion catholique, M. Mounier, que finalement c'était tout de même une victoire catholique, mais les bons catholiques de l'époque ne comprennent pas les choses comme ça. Ils attendaient que Henri IV prouvât la sincérité de sa conversion en éliminant, purement et simplement, en exilant au moins les protestants, comme si se passait en Allemagne, n'est-ce pas ? Si la France était un pays catholique, il ne devait pas y avoir de protestants en France, comme il n'y en avait pas, théoriquement au moins, en Espagne ou dans les États italiens. Les prédicateurs tonnèrent contre l'édit. Des manifestations furent organisées à Paris sous forme de processions. L'édit rencontra une forte opposition aussi des milieux parlementaires. Le Parlement de Paris, auquel l'édit fut porté en janvier 1599, refusa de faire des remontrances au roi. Mais Henri IV signifia très vigoureusement qu'il voulait être obéi, et le Parlement de Paris enregistra l'édit le 25 février. Les parlements de province suivirent, mais lentement. Celui de Rouen enregistra l'édit 10 ans plus tard, le 5 août 1609, du 13 exprès réitératif commandement du roi, sans approbation d'autres religions que la catholique, apostolique et romaine. Le pape Clément VIII, qui avait donné l'absolution au roi, était désolé de cet édit, le plus mauvais qu'il se puisse imaginer, permettant la liberté de conscience à tout un chacun, qui était la pire chose du monde. Les bons catholiques pensaient comme le pape, ne connaissait pas les articles secrets, mais il voyait les résultats, il voyait les villes, les places de sûreté concédées aux protestants, et là, les catholiques, d'une certaine fois, évidemment, la liberté de religion. Alors, se faisaient persécuteurs. Des seigneurs protestants contraignaient leurs sujets à venir aux prêches. Des gens dignes de foi, des prédicateurs dénonçaient au carême 1610 un complot des protestants pour massacrer les catholiques. Que faisait le roi, comme demande M. Mounier? Pourquoi ne protégeait-il pas les fidèles sujets catholiques contre l'intolérance, l'agressivité, la haine des hérétiques? N'était-il pas clair que le roi était hérétique, que sa conversion était simulée, qu'il n'était qu'un usurpateur et que le plus brave, le plus dévoué à la France devait se lever et frapper le tyran? Parmi également alors les conditions qui étaient mises à l'absolution du roi, il y avait la réception du Concile de Trente. Et il faut reconnaître que, après des difficultés, Henri IV y a songé sérieusement. Un édit a été préparé en 1600, rédigé, signé, scellé, où Henri IV tenait ses promesses. Ordonnons, voulons et nous plaît que le Concile de Trente soit reçu et observé en tous les lieux de notre royaume. Mais au Conseil du roi, un des présidents du Parlement a dit que jamais le Parlement n'accepterait l'édit, cet édit-là, qu'il allait faire une nouvelle pragmatique, qu'il l'examinerait tellement sous toutes les coutures qu'il le déformerait. Henri IV a reculé, il a reculé d'année en année, et finalement, en 1610, l'édit n'était toujours pas enregistré. Également, il a pris dans des politiques extérieures, les questions religieuses sont en cause, dans les difficultés de Paul V avec la République de Venise. Paul V avait mis toute la République en interdit parce qu'elle violait l'immunité ecclésiastique. Le roi d'Espagne était prêt à aider le pape à intervenir par les armes, même contre Venise, pour la force, pour forcer à se soumettre. Henri IV a fait comprendre qu'il ne permettrait pas de voir le seul État italien qui était vraiment allié à la France, justement qu'il avait même aidé à prendre le pouvoir, ne le permettrait pas une intervention espagnole et pontificale par les armes. Il a amené un compromis, de même il a adopté une attitude de compromis dans la dispute du pape Paul V également avec Jacques Ier d'Angleterre. Donc les catholiques concluaient, le roi n'avait-il pas obstinément refusé la publication du concile? N'en a-t-il pas violé les décrets, même dans ses nominations épiscopales aussi? N'a-t-il pas cherché constamment à aider Jacques Ier, hérétique, ennemi du pape? N'avait-il pas empêché le souverain pontife d'écraser la résistance de Venise? Partout et toujours, le roi faisait le jeu des hérétiques. Ne devait-on pas conclure qu'il était demeuré hérétique, que son absolution était nulle? N'avait-on pas affaire à un tyran d'usurpation? N'était-ce pas le devoir d'un bon catholique d'en débarrasser le royaume et la chrétienté? Voilà ce que pensait Ravaillac et tous les Ravaillacs en puissance. Ainsi donc, voyez, pour mener l'enquête sur le drame du 14 mai 1610, M. Mounier est entré dans la discussion de la théologie morale sur la licéité du tyrannicide, puis il a expliqué ce que les bons catholiques de l'époque pouvaient penser, pouvaient être amenés à conclure qu'Henri IV était un tyran. Et bien qu'en regroupant ces notions, toutes ces notions autour de l'événement du 14 mai, en interrogeant les théologiens, les prédicateurs, les anciens ligueurs, M. Mounier a transformé un fait de chronique en une page, ou en un livre même, d'histoire des doctrines et des mentalités. Le dernier volume sur lequel M. Mounier a parachevé son œuvre, nous connaissons bien tous, cette fois nous l'avons été cité à l'instant, la vie du cardinal de Richelieu. Chronologiquement, c'est la dernière. Alors, dans ma chronologie, je dirais, des événements, c'est la suite. C'est déjà Henri IV qui a nommé Richelieu évêque de Luçon. Nomination plus politique que canonique, que les bons catholiques auraient pu reprocher, parce que Richelieu, au moment où il est nommé évêque, n'a ni l'âge, ni les grades académiques requis par les canons et le concordat. Et ici, déjà, M. Mounier fait une étude, enfin, donne des précisions sur l'histoire des institutions. Le concordat requérait que le roi présentât un docteur ou un licencié en théologie ou en droit, licencié ou docteur dans une université fameuse, précisait le concordat, et se trouvant dans sa 27e année. Évidemment, le pape pouvait dispenser, et Henri IV a fait allusion à une dispense. Il reconnaît que le dit Duplessis n'a encore du tout atteint l'âge requis par les saints décrets et institutions et constitutions canoniques. Pour obtenir la dispense, Richelieu est venu lui-même à Rome, mais il semble bien qu'il s'est un petit peu vieilli, parce qu'il n'avait que 22 ans quand il a été sacré, donc il n'avait pas les 26 ans accomplis du concordat. Bon, sur la question des études, il n'était pas non plus encore docteur, et même jusqu'à quel point il fait des études très complètes, lui-même s'excuse quelquefois, n'est-ce pas, quand il parle de religion, disant qu'il n'est pas... Les historiens ont attribué à la modestie de Bonton les passages de ses ouvrages de théologie où il proteste qu'il travaille à s'instruire. Mais M. Mounier remarque, mais c'est peut-être vrai qu'il a encore à apprendre. Non, il a certainement fait une théologie accélérée, en tout cas. Bon. Et alors, toute une série de pages, l'histoire de cette biographie du cardinal de Richelieu est déjà une histoire des institutions. Par exemple, le diocèse de Luçon. Qu'est-ce que c'est un diocèse de l'Ancien Régime? Qu'est-ce qui dépend de l'évêque à ce moment-là? Eh bien, le diocèse de Luçon est, comme Poitiers et Malzé, d'ailleurs l'un des 9 évêques suffragants de Bordeaux. C'est un petit diocèse de 23 cures, mais il a 13 abbayes, 18 prieurés, 357 chapelles, 7 chapitres, des collégiales, 10 maladreries, dont quelques 100 000 habitants. Le chapitre cathédral comptait cependant 7 dignitaires et 30 chanoines à la nomination d'évêques, ce qui était assez exceptionnel, que tous soient à la nomination d'évêques. Les curés, au contraire, étaient à la, étaient à la présentation des abbayes ou des seigneurs laïcs. Bien que les décrets de 30 ne fussent pas reçus dans le royaume, Richelieu entendait les appliquer dans son diocèse, dans la mesure où ça dépendait de lui. Il rassembla son synode diocésain le 18 mars 1609, le 13 avril 1610, et dans l'intervalle, il visita son diocèse. Il exhorte les fidèles à observer les fêtes chômées. Il y en a une cinquantaine, donc en plus le dimanche. Il veille au choix des curés, parce que c'est lui qui leur donne l'institution canonique. Il avertit Madame de Sainte-Croix, qui a fait une nomination malheureuse, une présentation. Madame, un nommé André s'est présenté. Je prends la plume pour vous avertir de son incapacité et vous supplier, sachant le respect que je vous dois, d'avoir pour agréable qu'en faisant ma charge, je le refuse. Le 23 juin 1614, l'évêque de Luçon recevait une lettre de Sully, qui était gouverneur du Poitou, dans lequel se trouve Luçon, l'information que leur majesté convoquait les états généraux pour le 10 septembre à Sens. Une assemblée électorale est tenue à Poitiers et élit Richelieu pour représenter avec un autre ecclésiastique le clergé des trois diocèses de Poitiers, Maizet et Luçon. Finalement, la réunion des États, les États se sont ouverts à Paris le 26 octobre par une procession du couvent des Grands Augustins jusqu'au cloître Notre-Dame, suivi d'une messe de l'évêque de Paris. L'archevêque de Bordeaux, le cardinal de Sourdis, a prononcé l'homélie sur le thème « Deum timete regem honorificat ». Puis le lendemain, séance d'ouverture qui a réuni les trois ordres, le premier ordre, le clergé auquel donc participe Richelieu, comptait 135 députés, dont 59 archevêques et évêques, 39 chanoines, 33 abbés et 5 curés, donc une aristocratie ecclésiastique. Le contraire qui arrivera, comme vous le savez, en 89. Les nobles avaient 138 délégués et le tiers 187. Dont 114 officiers de justice. Chacun des ordres devait délibérer séparé des autres, mais en trois salles du même couvent des grands Augustins. Le clergé avait l'habitude de ces réunions, depuis que les assemblées du clergé existent, et aussi, écrit M. Mounier, seuls les membres du clergé savaient bâtir un plan de travail, établir un ordre du jour, délibérer en le suivant, rédiger un procès-verbal. La chambre du clergé était menée par les cardinaux et le président de fait était le cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux, justement métropolitain, n'est-ce pas, de Luçon. C'est peut-être ce qui explique que l'évêque de Luçon ait été dépêché à la chambre du tiers pour proposer un calendrier et un horaire qui furent adoptés. Mais bientôt éclate un conflit entre la noblesse et le tiers état à propos de la paulette et des pensions. Ça dure un certain temps. Le conflit à peine résolu, un autre encore plus grave surgit entre le tiers et le clergé. Sous prétexte, on retrouve, vous voyez ce que nous avons vu au début, sous prétexte de garantir la vie du roi contre de nouveaux Ravaillacs, le tiers état voulait placer en tête de son cahier que le roi serait supplié de publier comme loi fondamentale du royaume que le roi ne tient sa couronne que de Dieu seul, qu'il est seul souverain en son état, qu'aucune puissance en terre, spirituelle ou temporelle, ne peut le priver de son royaume ni délier ses sujets de leur serment de fidélité. Les sujets du roi reconnaîtraient cette loi comme conforme à la parole de Dieu. Et les officiers auraient à la jurer, les docteurs et prédicateurs seraient tenus de l'enseigner. Surtout en proclamant leur proposition conforme à la parole de Dieu, les gens du tiers se faisaient docteurs de la loi. La chambre du clergé a immédiatement envoyé un de ses meilleurs orateurs, l'évêque de Montpellier,
pour les prier de retirer l'article. En vain. Alors le cardinal Duperron, qui 20 ans plus tôt justement avait reçu l'absolution au nom du roi, fut chargé de les convaincre. Le 2 janvier 1615, suivi par la plupart des députés du clergé et bon nombre de la noblesse, il se rend dans la salle du tiers et, dans un discours qui dura 3 heures, il exposa la thèse du clergé de ce début du XVIIe siècle sur les relations entre le sacerdoce et l'Empire, et entre la papauté et le royaume des Francs. Premièrement, que pour quelque cause que ce soit, il ne soit permis d'assassiner le roi, le clergé est pleinement d'accord avec le tiers. Et il rappelait le canon du concile de Constance, qui vouait les régicides aux flammes éternelles. Deuxièmement, que le roi très chrétien soit souverain en son royaume, de toutes sortes de souverainetés temporelles, c'est une certitude historique, reconnue par Innocent III lui-même. Troisièmement, mais qu'un prince qui avait été reçu à l'Empire en jurant de défendre la foi et l'Église catholique, veuille apostasier, entraîner ses sujets dans l'erreur, puisse être privé de son pouvoir et que ses sujets puissent être déliés de leur serment de fidélité, cela, toute l'Église catholique, y compris l'Église de France, l'a toujours admis. C'est bien ce qui a été enseigné par l'ensemble des docteurs catholiques, y compris dans les chaires de la Sorbonne. Et les rois de France eux-mêmes se sont fait des exécuteurs des sentences pontificales, contre les comtes de Toulouse, protecteurs des hérétiques. Il fallait au moins dire que la doctrine de l'article était au moins problématique, on ne pouvait donc pas la proclamer comme conforme à la parole de Dieu et obliger les sujets du roi à l'enseigner et à la tenir. Mais le président du tiers, le prévôt des marchands d'ailleurs, Miron, réplique que puisque le cardinal dit que la doctrine était problématique, ils avaient le droit de la soutenir, mais ils ne voulaient pas y renoncer. Seulement, le Parlement de Paris vole au secours du tiers. Par un arrêt du 2 janvier, il interdit de mettre en discussion la doctrine contenue dans l'article controversé. Le clergé est obligé de dénoncer l'ingérence du Parlement dans les discussions des États. Là, il y a aussi un discours de Richelieu, je ne m'y arrête pas, qui demande à la chambre de la noblesse de se joindre à eux, ne soit pour protester contre les usurpations du Parlement qui veulent intervenir dans les discussions des États. Et, alors, il y a eu tout. Finalement, le clergé a arraché à Louis XIII, d'enlever l'article du cahier du tiers état. On était arrivé à la mi-janvier, il était temps de se mettre au travail de la rédaction des cahiers qui devaient être présentés au roi à la fin de la session. Et c'est dans la cérémonie de clôture que l'évêque de Luçon reparaît cette fois en premier plan. Il lui revient de présenter à leur majesté le cahier et les vœux de son ordre. Alors, il faut souligner, on prend compte facilement des erreurs à ce sujet, dans les manuels, le discours reprenait simplement les desiderata du clergé, ce n'est pas un discours tellement personnel. Parce que, par exemple, il demande au roi d'admettre des ecclésiastiques, de le rendre à son conseil. Alors certains ont dit, voilà, il prépare déjà l'avenir. Mais c'était ce que demandait effectivement la chambre du clergé. Et il y avait bien des précédents. Rétablir la religion, recevoir, faire publier le Saint et Sacré Concile de Trente. La chose la plus personnelle, peut-être, c'est un couplet à la louange de Marie de Médicis, qui s'en souviendra. Heureux le roi qui Dieu donne une mère pleine d'amour envers sa personne, de zèle envers son état et d'expérience pour la conduite des affaires. M. Mounier ne majore pas le rôle de son héros en cette circonstance. Sa remarque a sans doute la saveur d'une réminiscence de jeunesse. Je cite, « Le jeune évêque de Luçon jouait le rôle du dernier et du plus jeune professeur agrégé arrivé dans un lycée sous la Troisième République. Il écopait la corvée du discours de distribution des prix. » Si modeste qu'il eût été, ce rôle eut des lendemains. Dès la fin de novembre 1616, l'évêque de Luçon était appelé dans les conseils du roi. Mais comme vous le savez, ce ministère était rapide et s'est mal terminé. il est renvoyé d'abord dans son évêché et même exilé en terre pontificale en Avignon. Son exil ne fut pas oisif, il intervient déjà de loin par la plume dans la controverse entre le confesseur du roi, le père Arnoux, et quatre ministres de Charenton. Et il publie son traité, donc de Richelieu, n'est-ce pas, publie son traité des principaux points de la foi de l'Église catholique défendue contre l'écrit adressé au roi par les quatre ministres de Charenton, qui est publié en 1617. Le prélat commence par protester qu'il procédera par les voies les plus douces. Monsieur Mounier trouve que la douceur n'est pas la caractéristique de la façon dont Richelieu s'adresse au ministre. Contre tout droit humain et divin, vous dites qu'il est permis de tuer les rois impies, que c'est une chose conforme à la parole de Dieu, qu'un homme privé, par spécial instinct, peut tuer un tyran. Doctrine détestable en tout point. Vous êtes des rebelles par essence. Vous avez pris les armes contre Charles Quint, contre les rois de France, Charles II, Charles IX, Henri III, Marie d'Écosse, Marie d'Angleterre, dépouillé Philippe, roi d'Espagne, de ses provinces de Flandre. Ennemi des rois, la religion prétendue réformée bannit toute vertu et ouvre la porte à tous les vices. Monsieur Mounier conclut, la douceur de M. de Luçon était celle des chirurgiens de son temps qui opéraient sans anesthésie et restaient sourds aux cris de leurs patients. Un autre volume du temps d'Avignon, c'est l'instruction du chrétien, alors qui est destiné à être lu par les curés en chaire tous les dimanches. L'exil ne fut d'ailleurs pas très long. Le 7 mars 1619, le sieur du Tremblay, le propre frère du père Joseph, a porté une lettre à l'évêque de Luçon, ordre du roi de rentrer dans le royaume et de rejoindre au plus tôt la reine-mère. Suivent 3 années de participation plus ou moins active aux affaires, qui se terminent le 12 décembre 1622 par la remise à Richelieu de la barrette cardinaliste par les mains de Louis XIII. Enfin, désormais, l'évêque de Luçon peut aspirer aux rangs les plus élevés dans le Conseil du roi, comme un Georges d'Amboise, ministre de Louis XII, ou comme Antoine Duprat, chancelier de France, archevêque de Sens, et l'un et l'autre, soit qui sont légats du pape dans le royaume. Monsieur Mounier s'interroge alors quelle est la situation d'un ecclésiastique qui se trouve au gouvernement, appelé à prendre des décisions qui ne sont pas toujours en accord avec la douceur évangélique et qui en principe sont interdites aux clercs, par exemple faire la guerre, porter des sentences capitales, enfin, des décisions qui peuvent... Eh bien, à ces interdictions des canons, n'est-ce pas, pour clercs, au besoin d'entraîner l'effusion du sang, il y a des exceptions. Ces exceptions, le pape les concède aux cardinaux qui gouvernent l'État ecclésiastique et au cardinal surintendant de l'État ecclésiastique. Ces dispenses étaient concédées par bref, et c'est sur ce modèle que fut établi le bref du 9 décembre 1624, qui autorisait Richelieu à participer aux séances du Conseil lorsque seraient débattues des condamnations. La seule chose, en cas de peine capitale, le cardinal ne devait pas prononcer lui-même la sentence, mais il pouvait avoir opiné en faveur de la sentence capitale. Donc, comme clair in sacris, comme bénéficier, il était tenu à la récitation des heures canoniales. Eh bien, il a dû s'y efforcer pendant un certain temps, mais après la prise de La Rochelle, il a demandé au pape de commuer les offices complets dans l'office de la Sainte Croix, qui ne devait pas être très long. Il doit y avoir autant d'hymnes que d'heures canoniales. C'est évidemment et beaucoup plus court. Mais vous voyez même le scrupule de demander cette dispense. Et M. Mounier conclut, enfin, présente Richelieu comme prélat. Richelieu était pieux, travaillant le plus souvent de 2h à 5h du matin. Il se lève le matin entre 7 et 8 heures. Il prie Dieu, travaille, reçoit, va à la messe vers 10 ou 11 heures. Il se confesse et communie tous les dimanches. Il offre le sacrifice de la messe seulement aux grandes fêtes et aux fêtes de la Vierge, avec une dévotion exemplaire. autre épisode qui me semble plus caractéristique de la religion de Richelieu, c'est celle de l'avis qu'il a demandé en 1635 à l'Assemblée du clergé sur les mariages des princes du sang. Et donc ça nous ramène aussi à la question de la légitimité dans le théâtre. Le 3 janvier 1632, le Gaston d'Orléans épouse la princesse Marguerite de Lorraine. Il épouse d'ailleurs en secret. Et ce mariage avec la princesse de Lorraine nous ramène aux discussions sur la succession à la couronne de France. Dupuis, le bibliothécaire qui travaille pour le roi, écrit « Ce prince s'allie contre la volonté du roi et contre son expresse prohibition à une maison ennemie de la sienne, à une famille qui a fait déclarer son père indigne et incapable de la couronne et qui a osé dire à une misérable assemblée par eux convoquée à Paris sous le nom d'État généraux qu'elle était issue de la race de Charlemagne, le disent encore à présent, le font écrire que le roi, par conséquent, leur retient la couronne. L'ordonnance de Blois déclarait nul pour cause de rapt, ils appellent ça rapt de séduction, des mariages conclus sans le consentement des parents. Donc, Urbain VIII, ayant refusé de nommer une commission de 4 évêques pour juger l'affaire, le procès est introduit au Parlement de Paris, qui, selon sa jurisprudence habituelle, prononça le 5 septembre 1634 que le prétendu mariage de M. le duc d'Orléans et frère unique du roi avec la princesse Marguerite de Lorraine a été non valablement contracté. Urbain VIII protesta.